Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour et bienvenue sur Dans ma bulle, votre podcast 100% bande dessinée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de la dessinatrice Sandrine Martin. Bonjour Sandrine, merci de me recevoir.
Bonjour, avec plaisir.
Sandrine Martin, vous avez récemment publié deux albums aux éditions Casterman. Le premier, qui s'intitule « Chez toi », se déroule à Athènes en 2016 et il fait le récit croisé de deux femmes, la sage-femme grecque Monica et la réfugiée syrienne Mona, qui cherche à se rendre en Allemagne avec son époux pour accoucher. Et cette année, vous avez fait paraître donc à la rentrée émotive. Cet album est situé à mi-chemin entre récit fantaisiste et vulgarisation de théorie cognitive. Émotive, à mes yeux, c'est une invitation notamment à explorer ces émotions négatives pour mieux les déconstruire. Alors d'un côté, Chez toi, qui s'inspire d'une étude anthropologique réalisée en Grèce auprès de migrants qui fuyaient la guerre et la pauvreté. Et de l'autre, on a Émotive, qui vulgarise des théories du comportement en s'appuyant sur une documentation, notamment en sciences cognitives. Alors ma première question, ce qui porterait sur les sciences sociales, alors de l'anthropologie à la psychologie, d'où vous vient cet intérêt donc, pour les sciences humaines et sociales?
Je pense que je suis curieuse et que j'ai envie de me comprendre et de comprendre le monde dans lequel on vit. Ça peut être des clés de compréhension, de s'intéresser à des gens qui étudient à la fois ce monde et notre monde intérieur.
Est-ce que vous pensez, puisque bon, j'imagine que oui, mais que la bande dessinée c'est un bon outil de vulgarisation de ce type de théorie? Je pense notamment en particulier aux théories cognitives. Je ne pense pas forcément à la bande dessinée au départ comme outil de vulgarisation de psychologie par exemple, mais vous en êtes servi, je pense, de façon assez efficace au vu des motifs. Est-ce que vous le pensiez, ce récit, comme un outil de vulgarisation directement?
Oui, je trouve que la bande dessinée c'est vraiment un outil pédagogique très fort. Parce qu'on peut voir les choses et notamment des concepts qui sont abstraits. Et donc dans Émotive, il y avait tout un challenge de mettre en scène un espace qui soit mental, donc invisible, abstrait. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait à la fois pour moi, de comment j'allais le mettre en scène et le visualiser, et pour le lecteur, pour montrer comment ça se passe et donner peut-être des clés de compréhension qui soient facilement visibles et vivants, en fait.
Dans Émotive, on entre justement, l'album entre avec le personnage principal d'Alice, hein, qui est une femme stressée, une jeune mère de famille qui se sent un peu désœuvrée au début de l'album, et puis de moins en moins au bout d'un moment. On entre dans son vaisseau mental, qui est littéralement dans l'album un vaisseau. Comment vous avez imaginé ce vaisseau mental? Comment est-ce que vous êtes passé en fait de la théorie à la pratique? Comment vous l'avez imaginé, cette espèce de navire en fait, dans lequel on navigue?
En fait, à la base, j'avais envie de formaliser comment nos pensées peuvent influer sur nos actions et par l'intermédiaire de nos émotions. Donc j'ai pensé à faire des petites planètes, et le vaisseau c'était un peu le moyen d'aller d'une planète à l'autre, de naviguer d'un univers à l'autre. Et c'est comme ça que j'ai pensé à ce vaisseau. Et après, la métaphore, elle a des limites. Et donc, je sais pas, il y a un tableau de bord, mais j'ai pris ça ensuite un peu avec humour parce que le tableau de bord, il marche pas toujours à la perfection, etc. Sinon, j'avais déjà imaginé des choses comme ça dans un précédent livre paru à l'an 2 qui s'appelle L'œil lumineux, où il y avait déjà des personnages qui entraient dans des espaces mentaux. Notamment, il y a une jeune fille qui rentre dans la tête de l'homme dont elle est amoureuse pour voir si il l'aime en retour, des choses comme ça. Donc c'était des préoccupations qui m'accompagnent depuis longtemps. Comment mettre en scène ce qui se passe en fait dans notre intimité à nous, comment on le montre ça en dessin, en action, en bande dessinée.
Et est-ce que vous pouvez expliquer d'où vous vient cet intérêt pour les sciences cognitives, la psychologie, d'où ça vous vient cette préoccupation qu'on voit est ancienne?
Oui, je pense que c'est parce que j'ai envie de me comprendre, savoir comment je fonctionne. Et aussi, ma mère est psychanalyste, donc j'avais accès à beaucoup de livres de psychanalyse assez jeune. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée d'avoir ces lectures. Et du coup, ça m'a donné des clés et aussi la possibilité peut-être d'aller vers des lectures que je ne me serais pas permis si je n'avais pas eu ce premier accès assez facile à cette bibliothèque qui était bien fournie. Et donc l'envie de me comprendre, peut-être de faire avec mes émotions négatives, ça m'a conduit vers d'autres lectures plus personnelles.
On voit une bibliographie d'ailleurs en fin d'ouvrage dans Emotive. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces lectures qui ont été nécessaires pour la conception de l'album? On voit, derrière le côté fantaisiste du récit, on voit bien une vulgarisation de notions qui sont parfois des notions assez complexes, mais que vous parvenez, à mon sens, à simplifier de manière assez efficace. Est-ce que vous pouvez donc nous revenir sur ces lectures préalables à la création du récit?
Alors là, je me suis intéressée plus à tout ce qui est théorie cognitivo-comportementale. Donc comment nos émotions influencent nos actions et comment les pensées influencent nos émotions. Donc comment tout ça c'est imbriqué. Il n'y a pas tout le côté inconscient de la psychanalyse. C'est quelque chose que j'ai mis volontairement de côté pour que le propos soit clair. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus toutes ces questions reliées à l'inconscient qui existent dans nos vies. Donc je me suis beaucoup intéressée notamment aux travaux de Aaron Beck, qui est un peu la personne qui a formalisé tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale. Donc tout ce courant, c'est assez américain, avec des auteurs plutôt de l'autre côté de l'Atlantique.
On voit justement de façon assez concrète dans l'album, donc le personnage d'Alice reçoit une visite particulièrement inattendue, puisqu'il s'agit d'une extraterrestre qui s'appelle Zorica, qui vient lui expliquer qu'en fait elle a accès à son vaisseau mental et elle lui apprend d'une certaine façon à avoir accès à ce vaisseau et à transformer ses pensées donc négatives, puisqu'elle pense qu'elle est nulle, que son compagnon ne l'aime plus vraiment, que son travail n'est pas valorisant pour elle, etc. Donc de modifier ses pensées pour modifier sa vie. Alors je voulais vous demander, est-ce que dans la conception de cet album, ça vous a aidé, vous, à travailler sur vos pensées négatives? Parce qu'en fait, vous avez, je pense que l'album a l'ambition aussi que les gens réfléchissent au fait qu'ils sont parfois parasités par des pensées qui sont pas constructives. Et est-ce que vous, en concevant l'album, ça vous a aidé? C'est une forme de d'autothérapie?
Alors c'est plus des choses que j'ai expérimentées en amont et je me suis rendu compte que ça marchait bien, que l'idée qu'on a des pensées et qu'on peut les analyser, les observer dans sa vie, peut-être les modifier, c'est quelque chose que j'ai expérimenté au long cours et j'avais envie de le partager parce que parfois on croit ses propres pensées, enfin on a du mal à se détacher de son univers mental et le fait de prendre juste de la distance, faire un pas de côté, c'est quelque chose qui est assez puissant et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Peut-être la bande dessinée, ça m'a aidé à le formaliser, à réfléchir à la manière qui serait la plus claire possible pour le mettre sur papier, en fait.
D'accord. Et quand vous déconstruisez avec Alice et la gentille extraterrestre ici, Zorica, vous expliquez qu'en fait, c'est quelque chose qui était hyper intéressant, enfin en tout cas moi à titre personnel, j'y avais jamais pensé, que les pensées ne sont pas la réalité, mais qu'elles sont un filtre entre l'individu et le réel, et que les pensées conditionnent l'émotion, qu'en soi il n'y a pas d'événements en eux-mêmes positifs ou négatifs, mais qu'il n'y a que des événements, des faits, et que c'est l'interprétation de ces faits qui nous donne en fait une émotion par l'intermédiaire de notre pensée. Est-ce que ce véhicule de la pensée-là, dans quelle mesure en fait vous pensez qu'on peut le contrôler?
Disons que l'idée c'est pas forcément de le contrôler, mais d'en prendre conscience pour voir d'où ça vient et voir si c'est quelque chose qu'on aime ou dont on voudrait se détacher. Mais peut-être quand on a cette idée, on se dit « Ah bah, je vais contrôler ce que je pense et contrôler mes émotions, contrôler ma vie. » Et ça, ça marche pas. Disons que la démarche, ça serait plutôt de la prise de conscience et d'accepter en fait peut-être les émotions qui ne nous plaisent pas, de leur faire une place dans nos vies, de voir ce qu'elles veulent nous dire et finalement de, je dirais, pas de contrôler mais de danser avec ça pour avoir une existence qui nous plaît.
Et pour mettre en scène ce récit, vous avez fait le choix, le pari de la fiction, parce qu'on n'est pas du tout dans un documentaire qui serait un peu lénifiant d'un narrateur qui viendrait expliquer ce qu'est donc les théories comportementales, cognitives. On est dans un récit de fiction assez drôle, en réalité, puisque Alice, donc cette femme d'une quarantaine d'années, elle est donc confrontée à tout un tas de problèmes extrêmement concrets, et elle reçoit donc la visite de Zorica, cet extraterrestre dont on a déjà parlé. Et vous faites le choix, vous, de faire une bande dessinée de fiction à partir, donc, pour vulgariser des théories comportementales. Pourquoi ce choix du récit fantaisiste? Est-ce que vous auriez pu, finalement, mettre en scène quelqu'un qui fait faire qui va voir un thérapeute, par exemple? Vous n'avez pas du tout fait ce choix-là, vous avez vraiment fait le choix de la fantaisie. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, sur ce choix?
C'est un peu une manière de mettre en scène justement comment des gens peuvent être des vecteurs pour aborder et pratiquer ces idées. Et le fait que ça soit une extraterrestre, il y a tout de suite un côté beaucoup plus humoristique parce qu'elle est complètement à côté de... Elle est toujours super enthousiaste, elle voit les choses de manière beaucoup plus neutre que nous. Par exemple, une maison en bordel, elle voit juste qu'il y a beaucoup d'objets dans une pièce, des choses comme ça. Et ça permet d'amener beaucoup plus d'humour dans la narration, en fait.
Il y a des images qui sont assez rigolotes aussi. Donc quand on est dans le vaisseau, littéralement, donc on voit un tas de petits boutons informatiques imaginaires, évidemment. Et on voit que le vaisseau est alimenté en gasoil. Alors on voit parfois dépit, parfois amour, parfois tristesse, etc. Qui alimente ici ce vaisseau. Comment vous avez imaginé ces petites métaphores-là? J'imagine que c'est pour mettre un peu d'humour et pour rendre visible. Mais comment vous leur avez donné vie à ces métaphores?
Ben, on parle souvent, par exemple, de carburant émotionnel pour faire telle ou telle chose. Donc ça, c'était assez évident avec la métaphore du vaisseau mental qui est un carburant de dépit, d'amour, etc. Et après, en fait, il suffisait de filer la métaphore pour mettre en scène toutes ces idées.
Et donc Zorica, donc cet extraterrestre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que bon, finalement c'est une extraterrestre, donc qui prend l'apparence des êtres humains, donc prend l'apparence d'une jeune femme blonde, et à la fin finalement elle se lie avec des humains, donc finalement elle change elle aussi. Alors pourquoi avoir entrer cette partie-là de la narration, parce que finalement c'est pas un deus ex machina, c'est finalement une personne qui va en fait s'infiltrer finalement en fin de compte chez les humains. Pourquoi ce choix?
Bah, je trouvais ça amusant que ce personnage prenne de l'épaisseur et vive aussi ses propres transformations, et qu'elle devienne finalement de plus en plus humaine, qu'elle comprenne mieux les émotions humaines.
Et finalement, il y a un lien, enfin, que j'ai vu quand j'ai lu Émotive avec votre précédent livre. Et là, c'est pour ça que je commence l'entretien en parlant de sciences sociales avec Chez Toi, puisqu'en fait, Chez Toi est aussi une forme de vulgarisation d'une autre nature, parce que ce travail-là s'appuie sur un travail préexistant de recherche, cette fois en anthropologie. Donc là, on quitte les sciences cognitives. Et le destin de la réfugiée syrienne Mona s'inspire notamment de récits de vie de migrants, qui a été recueillie d'abord par des anthropologues, puis ensuite par vous, j'imagine. Est-ce que vous pouvez expliquer la genèse de ce projet et la manière en fait dont il a pris corps? Comment est-ce que vous avez été connecté, vous, à cette équipe de recherche en anthropologie, et pourquoi ça vous a intéressé?
Alors, j'ai rencontré Vanessa Grotti, qui est une anthropologue qui a fait une étude assez ambitieuse dans plusieurs lieux de frontières européenne où des migrants et migrantes arrivent. Donc elle a fait une étude où il y avait plusieurs sociologues et anthropologues, toute une équipe qui était basée à Mayotte, à Lampedusa, à Athènes, en Guyane française et aussi en Sicile. Et c'était une étude pour comprendre comment les femmes enceintes étaient accompagnées au cours de leur grossesse et de leur accouchement. Et c'était une étude qui était à la fois basée sur l'observation de ces femmes et recueillir leurs témoignages, et également recueillir le témoignage des sages-femmes et des gynécologues qui participaient à leur parcours de soins. J'ai participé en fait à un appel à projet qui s'appelait...
C'est le projet de l'ERC?
Oui, voilà.
L'European Research Council, c'est ça?
Oui, voilà. Okay. Mais je ne me souviens plus, il y a un sigle, ERC Comics.
ERC Comics,
oui. Oui, voilà. Donc c'est sur internet, il y a 16 bandes dessinées qui ont été produites à partir de 16 projets de recherche. Et donc les équipes de recherche pouvaient postuler pour qu'un auteur ou une autrice de bande dessinée s'empare de leur projet, travaille avec eux, collabore pour produire une histoire qui est plus facilement accessible qu'un projet de recherche qu'on va pas lire forcément le soir avant de s'endormir.
Donc c'est avec des fonds européens finalement,
oui, voilà,
que vous avez conçu la bande dessinée. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous a plu en fait dans cette recherche là et dans ces parcours? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à vous engager, parce que finalement c'est une forme d'engagement quand on va parce que vous êtes rendu en Grèce. Quel était votre motif en fait pour vous lancer dans cette démarche là qui a on parlait d'émotions tout à l'heure qui émotionnellement sont quand même pas anodines.
Mm-hmm. En fait c'est Vanessa Grotti qui a choisi mon dossier pour qu'il soit pour que je travaille avec elle. Donc et moi j'étais vraiment très enthousiaste et très contente de cette rencontre parce que les autres projets c'était peut-être plus scientifique, enfin sciences dures entre guillemets. Il y avait la canopée en Amazonie ou les neurones ou la poussière d'étoiles qui sont des sujets tout à fait passionnants mais peut-être moins axés sur l'humain. Donc j'étais vraiment ravie de pouvoir travailler avec Vanessa et avec toute son équipe. Et bien sûr, c'était passionnant parce qu'il y avait à la fois le côté recherche. Je me suis beaucoup inspirée finalement du processus de Vanessa qui étudie à la fois le personnel soignant, les sages-femmes, les gynécologues et les migrantes. Et donc dans mon livre, il y a cette idée de deux personnages qui sont l'une en face de l'autre et qui partagent finalement, peut-être il y a comme une idée qu'elles vont partager une même âme, qu'il y a beaucoup de choses qui sont identiques chez elles, donc un peu une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'identité, et bien sûr, il y a toute cette idée des papiers d'identité et de tout ce processus administratif très lourd pour les migrants, et notamment pour Mona dans le livre, qui aimerait finalement aller à Berlin, s'installer, accoucher, commencer cette vie avec son mari et son bébé, et qui va rencontrer tout un enfer administratif pour réaliser ce projet.
Oui, d'ailleurs, ça fait partie des éléments clés du livre. C'est-à-dire que quand la bande dessinée débute, et débute donc en Grèce, et pas au début de la trajectoire syrienne, même si vous y revenez au cours de l'album, et vous montrez en fait les camps en Grèce, vous montrez toutes les démarches que doit faire cette famille, enfin ce couple syrien pour essayer en tout cas de partir en Allemagne. Le fait que au début on leur propose pas l'Allemagne, on leur propose la France, alors qu'elle a commencé à apprendre l'allemand dès la Grèce, et puis en fait elles vont pas aller en France, ils vont passer donc par d'autres systèmes moins légaux pour pouvoir intégrer, pour pouvoir réaliser leur projet. Pourquoi mettre en scène effectivement cet enfer administratif? Parce que finalement, on pense qu'en fait, évidemment, la difficulté majeure, c'est la traversée, et vous revenez bien dessus d'ailleurs. Mais une fois en Grèce, une fois en Europe, en fait, le calvaire n'est pas du tout terminé. Pourquoi est-ce que vous avez insisté là-dessus en particulier?
Il y a l'idée de la grossesse. Mmh. Ce que je voulais, c'est que le livre il soit vraiment le récit de cette grossesse. Ça commence à l'annonce, elle va à Médecins du Monde dans le centre d'Athènes et elle apprend qu'elle est enceinte. Et en fait, il y a un peu un compte à rebours à ce moment-là qui se déclenche. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappée dans des récits de voyages de migrantes et migrants, c'était l'idée qu'il y a le départ de son lieu de vie. Il y a une énergie pour réaliser toutes les démarches, pour arriver en Europe. Finalement, au bout du voyage, il y a une espèce de désespoir qui est là, présent, à partir du moment où on est arrivé là où on voulait arriver. Et finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a une sécurité, mais un déracinement qui prend place. Et ça m'a vraiment marqué. Et je voulais parler de ce phénomène-là.
Et pour pouvoir construire donc cette bande dessinée. Donc vous vous êtes appuyé sur les travaux universitaires, mais aussi sur un voyage en Grèce. Donc vous êtes allé à la rencontre de ces femmes-là enceintes et vous avez fait une synthèse de plusieurs de ces parcours pour construire le parcours ici de Mona.
Alors en fait, j'étais en discussion avec Vanessa et aussi avec Cynthia Malakassis, qui était la personne qui était vraiment sur le terrain en Grèce. Donc elle a fait un terrain qui a duré un peu plus d'un an, ce qui est assez grand, assez long pour ce type d'études. Donc elle a fait vraiment un travail très fouillé. Et moi, j'ai passé du temps avec elle et du temps surtout à dialoguer avec toute l'équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas accès finalement à leurs travaux parce qu'elles étaient en train de... On était en fait en parallèle, moi j'étais en train de faire la bande dessinée, elles étaient en train de chercher d'être D'accord. sur le terrain.
D'accord.
Donc c'était très informel, beaucoup de discussions. En fait, si j'avais besoin de tel ou tel renseignement, tel ou tel témoignage, il fallait que je leur demande à elles. Et c'est comme ça en fait qu'on a construit vraiment en discutant, en dialoguant, avec des allers-retours, beaucoup par mail et aussi quand on se voyait. Et quand je suis allée là-bas, j'ai visité les différents lieux de la recherche et rencontré des personnes, mais encore cette fois de manière assez informelle. Mais c'était vraiment fort d'être là-bas et d'être entourée de ces présences et de cette ambiance.
Ça, effectivement, on ressent d'ailleurs l'ambiance d'Athènes, puisque vous montrez bien les rues, on voit que c'est documenté dans la bande dessinée, puisque vous accordez quand même une place assez importante au décor. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'au milieu de l'ouvrage, vous avez reconstitué certaines scènes, et notamment du parcours de migration, donc depuis la Syrie en guerre et donc bombardée par Bachar el-Assad, jusqu'à la traversée en passant notamment par la frontière turque. Et vous avez reconstitué ces moments clés. Comment est-ce que vous avez reconstitué ces images en fait? Parce qu'on voit notamment, il y a une image forte sur la traversée de la frontière turque où les migrants enjambent des cadavres et où en fait les passeurs les font passer après les animaux parce qu'ils ont moins de valeur marchande. Bref, ces scènes qui sont quand même assez terribles. Comment est-ce que vous avez pu les reconstituer, y compris graphiquement?
Ça part du récit vraiment très circonstancié des migrantes qui ont participé à l'étude. Donc la femme qui parlait de ça, elle disait que c'était des champs de noisetiers. En fait, il y a beaucoup de noisetiers en Turquie qui sont cultivés. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché des images pour savoir comment c'était. Et j'ai remis en scène les témoignages des migrantes. Et aussi, il y a toute une partie dans le livre sur la vie en Syrie de Mona avant la guerre.
Oui.
Et ça a beaucoup été nourri de discussions que j'ai eues avec une traductrice et professeure d'arabe syrienne que j'ai rencontrée à Paris, parce qu'à un moment, je me suis dit que j'avais besoin de retour là-dessus et de plus d'informations sur tout le passé et l'intimité de mon personnage. Et donc, on a passé... c'est une personne que j'ai contactée un peu par hasard, par Internet, et c'était vraiment une collaboration très précieuse parce qu'elle m'a donné... des informations auxquelles j'aurais pas eu accès sinon. Et ça, je pense, ça a beaucoup nourri le personnage de Mona, même pour savoir ce qu'elle mangeait, pour savoir... J'avais plein d'infos, du coup, sur mon personnage que j'ai même pas forcément utilisé, mais qui la rendent plus vivante.
Oui, je pense notamment au fait que quand elle est dans sa famille, donc en Syrie... Elle fait des études, elle se lance dans des études d'ingénieur, me semble-t-il. Et il faut avoir un certain nombre de notes au bac. Enfin bref, ce genre de détails, c'est de ça dont vous parlez.
Oui, voilà.
Bon, d'accord. Et le fait qu'elle soit, en fait, qu'elle veuille pas du tout faire des études d'ingénieur, mais ensuite elle est rappelée à l'ordre par son père qui lui dit qu'elle est déjà trop pourri gâtée. Et on voit le système un peu sclérosé de la Syrie déjà à ce
moment-là. Notamment, oui, de tout ce qui est système éducatif.
Et quand donc Mona arrive avec son époux en Grèce, donc on a dit que c'était que le début de ce parcours de migration. Ceci étant dit, quand elle arrive en Grèce, elle arrive dans un pays qui est marqué par la crise économique. Donc puisqu'évidemment la Grèce a connu une crise extrêmement grave, donc la crise de la dette. Et vous en parlez pas mal dans l'album à travers l'autre personnage important, qui est le personnage de Monica, cette sage-femme grecque, qui elle aussi donc est dans une relation de couple un petit peu complexe également, qui est jeune mère. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'insister, donc à travers le parcours de Monica, sur les conséquences sociales de cette crise? Parce que Monica, justement, subit, et son mari aussi, subit particulièrement cette crise économique en Grèce.
Je trouvais ça intéressant qu'il y ait les deux volets. Et aussi que on voit que le personnage de Monica fait aussi face à des challenges dans sa vie et dans son quotidien. Et moi, j'avais aussi des informations de première main à ce niveau parce que le père de ma fille est grec. Donc, on allait souvent en Grèce. Je pense que toute la famille de Monica est aussi inspirée de cette belle famille. Et donc, j'avais aussi, de par ce fait, des informations avec des amis, par exemple. Donc il y avait par exemple une jeune femme qui avait fait des études d'ingénieur et puis elle travaillait comme caissière, enfin des choses comme ça qui m'ont marquée et que j'avais envie de mettre en valeur dans l'histoire pour qu'on comprenne en fait ce pays qui supporte de manière très inégalitaire l'accueil des migrantes et migrants, quel est un peu le contexte économique et social dans ce pays.
Et justement, on voit en fait qu'il y a deux parcours de migration un peu croisés, puisqu'il y a celui de Mona, évidemment poussé par la guerre, et puis il y a celui de Monica aussi, qui, elle, rêve aussi de partir en Allemagne, de fuir. Et là, vous faites référence notamment au départ de dizaines de milliers de jeunes Grecs à cause de la crise économique. Et finalement, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez revenir, ces parcours de migration? Parce qu'évidemment, la crise des migrants n'est pas terminée. En prenant un cas français, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez?
Moi, de partir, ouais. J'ai vécu à Berlin pendant un an et je voulais peut-être m'installer à Berlin. Donc oui, il y a un écho aussi avec ma propre expérience. Et ce départ et cette vie là-bas m'a fait prendre conscience de ce que c'était d'être déracinée, même si pour une Française qui vit à Paris, de s'installer à Berlin, on peut se dire il n'y a pas une distance incroyable et puis c'est facile de revenir. Mais c'était quand même une expérience forte et parfois déstabilisante. En tout cas, pour moi, je suis revenue de cette expérience en me disant que j'étais contente d'être à Paris et d'être proche de ma famille, de parler français aussi, d'avoir accès à plein de livres en français. Donc j'ai finalement compris le luxe de ma situation en vivant cette expérience-là, qui était aussi super intéressante. Par ailleurs, voilà, même si j'ai fait ce choix de revenir.
D'accord. Dans vos deux derniers albums, même avant, si on prend la biographie Nikki de Saint-Phalle que vous avez faite, à chaque fois, donc vous vous intéressez à des trajectoires de femmes, et de femmes en tout cas confrontées à une forme d'adversité, alors plus ou moins importante, puisqu'évidemment on ne peut pas comparer le récit migration syrien aux difficultés intrafamiliales d'Alice dans Émotif, mais finalement on retrouve ce leitmotiv de l'adversité, puis il y a un autre motif qui est celui de la parentalité. C'est quelque chose qui vous a particulièrement interrogé, la parentalité, puisque finalement, dans Chez toi, le personnage de Mona est enceinte, Monica est sage-femme, et Alice, elle, a une enfant et cherche à en avoir un deuxième en ayant recours donc à procréation médicalement assistée. Pourquoi avoir accordé une place aussi importante à la question de la parentalité?
Je pense... ça vient de mon expérience propre d'avoir une fille et pour tout ce qui est émotion, de comprendre comment faire de la place pour les émotions de ma fille après une journée où j'aurais eu mes propres émotions. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amenée à réfléchir à tout ce dont je parle dans Émotive. Et je pense aussi que je m'intéresse finalement à la situation qui est partagée par beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, c'est-à-dire d'une certaine norme d'être mariée, d'avoir une famille. Enfin, c'est une situation qui est partagée par tant de gens et qui peut, dans le même temps, amener beaucoup de détresse dans la vie quotidienne et beaucoup de questions. Donc je pense que ça m'intéresse de justement pousser un peu plus loin et voir qu'est-ce qui va déranger dans ces situations et comment on peut faire pour rendre les choses plus douces et profiter finalement de ces expériences incroyables d'être parent en fait.
On le voit dans Chez Toi aussi, puisque vous reveniez sur Émotive, évidemment, mais dans Chez Toi, il y a aussi l'expérience de Monica qui est confrontée quand même à un choix qui potentiellement est douloureux, celui de partir, mais qui, en laissant ou en emportant son enfant aussi, et qui sont, comme vous le disiez, des choix qui peuvent être douloureux, auxquels un lecteur peut s'identifier. Est-ce que je pars pour un nouveau travail, mais qu'est-ce que je fais de ma famille? Okay. Je vais revenir sur le dessin, parce qu'il y a une forme de continuité, puis aussi d'évolution dans le dessin entre Chez Toi et Émotive. Mais dans ces deux derniers albums, vous utilisez donc notamment de plus en plus de couleurs, et vous utilisez une technique au crayon. Est-ce que vous pouvez revenir, en fait, ce choix de crayon, notamment de crayon de couleur, qui n'est pas si fréquent en bande dessinée, et de revenir aussi sur la place que vous donnez à la couleur dans votre dessin?
Alors, c'est vrai que la couleur, elle prend de plus en plus de place. C'est assez progressif, parce que là, j'ai fait 8 livres personnels, et on peut voir qu'il y a de plus en plus de couleurs, finalement, et une palette de plus en plus élargie et saturée. Donc, ça a commencé peut-être avec Niki de Saint-Phal, où on a tout un récit qui est fait en noir et blanc, mais la couleur vient là où le récit, pour souligner finalement les émotions de Niki et tout son travail artistique en lien avec ses émotions. Et avec Chez Toi, j'avais envie d'utiliser la couleur pour raconter la réalité des deux personnages, de Mona et Monica. Donc quand on est avec Mona, il y a une dominante de bleu et rouge, et Monica, c'est le bleu, toujours, qui est une couleur assez calme de base, et de orange, qui vient toujours aussi en lien avec les émotions des personnages. Dans Émotive, la palette est beaucoup plus élargie, puisqu'on n'a plus seulement deux couleurs, mais on a vraiment des ambiances colorées qui changent en fonction des chapitres. Et je pense que c'est aussi une manière pour moi de prendre plaisir à réaliser ces livres. J'ai l'impression que je m'autorise de plus en plus à utiliser une palette élargie et qui va vers des couleurs plus gaies. Et c'est aussi des choses qui arrivent dans Émotive, où il y a ce personnage qui est assez expansif, enthousiaste, ce personnage de l'extraterrestre.
Dans Émotive, justement, il y a une dominante de couleurs chaudes en particulier, puisqu'il y a toute une nuance de rouge, d'orange, de jaune qui donne, à votre avis, une dimension gay au récit, c'est ça?
Oui, humoristique aussi.
Et on voit aussi, pardon.
Et aussi, dans cette évolution-là, j'ai fait un livre qui s'appelle La montagne de sucre, donc c'est des dessins uniquement en noir et blanc. Et là, je réalise un peu une espèce de suite, mais complètement en couleur. Donc, c'est des dessins assez fouillés où on explore aussi des paysages émotionnels, finalement, à travers d'ambiances et de symboles. Et donc là, je suis en train de réaliser un autre ouvrage comme celui-ci, mais entièrement en couleur et au crayon de couleur.
Donc, une suite à un ouvrage que vous avez fait paraître en 2012, La Montagne Russe, aux éditions L'Apocalypse, qui est la maison d'édition de Jean-Christophe Menu. La Montagne de Sucre, c'est un récit qui est entièrement... donc là, pour le premier volume, là, celui que vous avez déjà fait paraître en noir et blanc, et qui est un récit sans dialogue. Et donc là, cette suite en couleur, donc, c'est dans le même registre, c'est-à-dire sans dialogue, qui raconte une histoire d'amour ou sur autre chose?
Bah, ça va être un peu la suite. Donc La Montagne de Sucre, c'était sur des jeunes gens qui se rencontrent. Donc ce passage peut-être de l'adolescence à l'âge adulte et d'une vie en couple indépendante. Et là, ça sera donc sur la quelques années après, sur la parentalité et sur une vie de couple plus mature et tous les enjeux que ça représente.
Donc là, on est sur un registre narratif qui est très différent de ce que vous avez fait. Ça vous intéresse de manier en fait de différents registres, parce que là, on est sur Chez toi ou dans les motifs, dans des romans graphiques qui sont donc à peu près 200 pages avec des dialogues et une trame narrative qui est linéaire. Tandis que là, ici, on est sur quelque chose de plus expérimental. Vous aimez bien aller de l'un à l'autre?
Oui, c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup intéressée. Donc à la fin de mes études, j'ai étudié aux Arts Déco, il fallait faire un grand projet. Et donc j'ai choisi de faire une bande dessinée à partir de poèmes de Sylvia Plath, qui est une poétesse américaine. Ce qui m'intéressait en fait, c'était de mettre le texte au premier plan de la narration, parce que je m'intéresse beaucoup à la littérature et j'étais un peu frustrée en lisant de la bande dessinée que le texte passe finalement peut-être au second plan par rapport à l'image et à l'action. En fait, c'était un peu une posture expérimentale en me disant « Et qu'est-ce qui se passe si je prends un texte qui n'est pas narratif, donc des poèmes, et que je le mets en scène et je fais toute une bande dessinée à partir de ce texte-là » Et ça m'intéressait aussi que le texte soit assez exigeant, assez écrit. Donc j'ai mis ça en place, et ce qui m'intéressait aussi, c'était de réfléchir à ce qu'est une narration limite, c'est-à-dire par exemple un poème, on ne peut pas dire que ça soit vraiment narratif, mais si on le prend pour une histoire, est-ce que ça ne serait pas déjà un peu narratif? Enfin, des interrogations comme ça. Donc la montagne de sucre, ça vient aussi de ces interrogations, d'un récit en images. Et finalement, le lecteur, en passant d'une image à l'autre, va créer lui-même une narration, même si elle n'est pas forcément là d'emblée, avec cette idée que le lecteur va combler toujours les trous entre une case et une autre, entre une image et une autre, entre un plan et une autre au cinéma, et un autre au cinéma. Voilà, toutes ces questions qui sont peut-être plus expérimentales, plus... Disons que... J'aime bien m'interroger sur les formes et me donner les contraintes pour créer des œuvres. Voilà.
On voit que vous avez quand même tiré quelque chose en fait de cette expérimentation dans des albums plus narratifs pour le coup, puisque vous faites complètement éclater la case dans Chez toi, dans Emotive, et vous comblez l'espace d'une autre manière. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager comment est-ce que vous créez ici une planche avec de la narration à l'intérieur, mais sans utiliser en fait le traditionnel gaufrier?
Ça, c'est aussi une réflexion que je me suis posée pour Petite Niaiseuse. En fait, Petite Niaiseuse, c'est un ensemble de récits assez courts, comme des nouvelles, où j'interroge peut-être plus l'espace, parce que je m'intéresse aux lieux où j'ai habité, les uns après les autres, donc de l'enfance à l'âge adulte. Chaque récit se passe dans un lieu différent, et je voulais mettre ça en parallèle avec l'espace de la page. Et donc parfois on a une espèce d'immeuble qui est découpé en différentes pièces et ça va être les cases finalement de mon récit. Et donc avec cet entraînement-là en tête, ça me permettait dans Emotive de m'affranchir des cases qui se succèdent les unes après les autres et de créer plus un espace peut-être plus informel. Il y avait aussi cette réflexion-là dans Chez toi, qui est à la base un webcomic. Il n'y avait pas le même... Dans le webcomic, il n'y avait pas cette idée de passer d'une page après l'autre que j'avais à créer. C'était un long rouleau qu'on allait scroller. Donc ça, c'était vraiment une expérience intéressante de mise en page. Et passer aussi du webcomic à la bande dessinée, à l'objet livre... Et au fait de tourner les pages les unes après les autres, ça a été vraiment intéressant. Et donc, dans Chez toi, on a un découpage avec des cases ou pas de cases, mais où le blanc participe beaucoup à la narration.
Et donc, vous avez dû réaménager les pages quand il est passé de webcomic à livre, c'est-à-dire que vous avez refait un découpage?
En fait, j'avais déjà anticipé ça au début parce que je me suis dit que c'était un projet tellement intéressant que j'avais envie de travailler de manière plus aboutie avec un objet livre. Donc je l'avais un peu anticipé et travaillé le webcomic avec l'idée que ça serait peut-être un livre. Il fallait l'adapter, mais c'était assez facile et fluide.
Et vous étiez revenu tout à l'heure pour me répondre sur Petite Niaiseuse. C'est un album qui est paru chez Misma, donc en 2015. C'est un album autobiographique.
Oui, enfin, y a toujours une distance avec la réalité et je me permets de présenter les choses en le mettant en scène. Donc, c'est pas. Disons que aussi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la précision de ce que je vais raconter, mais plus le mettre en scène, le raconter peut-être d'une manière un petit peu différente, mais pour que ça soit plus vivant et plus intéressant pour le lecteur.
Et je me suis posé la question aussi, quand j'ai lu Émotive, à quel point c'était un récit qui était autobiographique autour, pas du personnage de Zorica, bien sûr, mais du personnage d'Alice. Donc à quel point est-ce que Émotive est un récit autobiographique ?
Ah bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que y a beaucoup de choses qui viennent de moi dans Alice, même parfois de manière inconsciente, ou peut-être que j'ai une espèce de mauvaise foi ou de résistance à me mettre en scène. En fait, par exemple, Alice, elle a les cheveux gris comme moi, et c'est pas forcément commun. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait en me disant « Ah, bah, cette couleur... ça va être super dans ma palette, voilà. » Alors que finalement, elle me ressemble, quoi. Mais c'est pas forcément voulu à chaque fois. Il y a aussi une espèce de peut-être de résistance inconsciente, à faire ça.
Oui, vous n'êtes pas dit, je vais me représenter dans Alice.
Non, je me suis pas dit ça, mais elle me ressemble.
De fait, de fait, oui. Et surtout qu'elle travaille dans l'illustration, comme vous qui êtes dessinatrice. Donc il y a tout un tas de parallèles. D'accord. Vous nous avez parlé donc de la suite de Montagne Russe. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir ou d'autres envies, d'autres souhaits, d'autres ambitions à l'avenir d'album?
Bah, j'ai commencé à écrire un nouveau projet, mais c'est vraiment à l'état d'ébauche, c'est encore complètement en chantier.
D'accord, donc voilà. Sur quel thème quel...
Alors ça serait, il s'agirait toujours d'explorer l'intimité d'un personnage féminin, et là ça serait centré sur la période de l'occupation, donc pendant la guerre, et voir... l'occupation et la libération, enfin, utiliser cette période d'histoire qui est très chargée pour parler aussi d'occupation et de libération intime. Voilà. Oui. Et donc, il y aurait toujours. Ça serait centré sur un personnage féminin, sur son couple, sur sa parentalité et tout ce qu'elle vit dans cette période historique.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine Martin, pour votre disponibilité. Je rappelle que Chez Toi et Émotive donc, sont deux beaux albums, parus tous les deux aux éditions Casterman, disponibles chez tous les bons libraires. Et voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos impressions. Vous pouvez également écouter nos autres épisodes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Et je vous dis à bientôt sur Dans ma bulle. Merci.
Dans ma bulle, le podcast BD. D'avoir à lire.